Cette journée consacrée à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss et les interventions de cet après-midi vont aborder des thèmes extrêmement divers et nous allons commencer par les effets de la pensée de Claude Lévi-Strauss dans une région qui n'est pas celle où il a lui-même travaillé et sur laquelle il a beaucoup écrit, comme c'était le cas ce matin, une région qui pourtant est voisine, à savoir la Sibérie. Il y a des affinités profondes entre la Sibérie et les Amériques. Robert Tamayon, ethnologue, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, a beaucoup travaillé sur ces questions, sur ces connexions, et elle va donc nous présenter un exposé intitulé « L'aigle, le corbeau, réponse sibérienne à Claude Lévi-Strauss ».
Je suis très heureuse d'avoir à évoquer ici ce domaine sibérien qui doit tant à Claude Lévi-Strauss. Sa pensée, en effet, n'a cessé de tenir une grande place dans l'orientation des recherches qui y sont menées, et pas seulement en raison des affinités profondes que rappelait à l'instant Philippe Descola, mais aussi de façon plus fondamentale, plus générale, plus méthodologique, et ceci au point que toutes sortes d'idées novatrices de Lévi-Strauss ont fini par devenir des évidences anonymes à travers les générations de chercheurs, sans pour autant cesser d'être stimulantes comme au premier jour. Je voudrais rappeler tout d'abord que Claude Lévi-Strauss est à l'origine de la reconnaissance institutionnelle en France du domaine sibérien en tant qu'aire de recherche anthropologique à part entière. Il avait été très intéressé par la lecture du livre de Evelyn Lotfalk, intitulé « Les rites de chasse chez les peuples sibériens », paru chez Gallimard en 1953. Sa lecture l'avait amené à susciter la création d'une direction d'études sur ce domaine à la 5e section de l'École pratique des hautes études, la section des sciences religieuses, à laquelle il appartenait alors. Ce fut la chaire des religions de l'Eurasie septentrionale qu'Evelyn Lotfalk occupa de 1963 à 1973. Parallèlement, elle continuait à travailler au Musée de l'Homme, où elle avait la responsabilité des collections de l'Asie septentrionale et de l'Arctique. Nous étions alors trois jeunes chercheurs formés en anthropologie, avec pour lecture phare, bien entendu, les structures élémentaires de la parenté. Et nous suivions fidèlement son séminaire, tout en nous initiant aussi auprès d'elle, au Musée de l'Homme, à l'analyse des objets. Bernard Saladin d'Anglure s'engageait alors dans une longue recherche chez les Inuits, dont l'un des résultats est un admirable recueil de mythes commentés à la lumière des pratiques, qui est paru en 2006, avec une préface de Claude Lévi-Strauss. Laurence Delabie a poursuivi la tâche d'Evelyn Lotfalk au Musée de l'Homme, publiant de nombreux travaux sur les objets chamaniques sibériens, notamment, en 1999, un catalogue détaillé consacré à ces collections qui se trouvent aujourd'hui au Musée du Quai Branly. Pour ma part, j'ai eu la grande chance de prolonger l'enseignement d'Evelyn Lotfalk sur le chamanisme sibérien à la 5e section de l'EPHE. Mais les structures qui étaient au cœur de la formation des étudiants de ma génération pouvaient-elles s'appliquer, tout au moins les modèles qui y étaient exposés, s'appliquer à l'analyse des peuples sibériens? C'était une grande question. Heureusement, parmi les systèmes appelés à illustrer l'importance capitale des relations d'alliance dans ce livre, figuraient ceux de deux peuples de Sibérie extrême-orientale, les Tungus et les Gilyak, ou Nifre, connus d'après Sternberg et Chirogogorov, deux auteurs russes, dont heureusement les travaux étaient accessibles en anglais. Ces deux systèmes représentaient des cas limites de l'échange généralisé. L'un, le Tungus, ses limites internes, selon l'expression de l'autre de Claude Lévi-Strauss, et l'autre, le système Gilyak, l'une de ses possibles périphéries. Claude Lévi-Strauss en venait d'ailleurs à qualifier de casse-tête chinois le système manchou dans lequel il retrouvait ce mélange inextricable des formules de l'échange restreint et de l'échange généralisé qu'il avait décelé dans le système Tungus. Quoi qu'il en soit, l'intérêt manifesté par l'auteur pour Ces systèmes sibériens étaient pour nous d'autant plus précieux et stimulants que les travaux de Sternberg étaient alors reniés par l'ethnographie soviétique officielle et que celle-ci, en outre, interdisait toute question de parenté. La théorie politique du régime soviétique, en effet, voulait éviter de donner, par le simple fait d'en faire l'objet de publications ethnographiques, du crédit à des systèmes sociaux dont il avait décidé d'éliminer toute trace. Elle imposait aux ethnographes de contribuer à la construction de la nouvelle société sans classe, fondée sur l'idéal d'un homo sovieticus homogène, individu libre de tout lien autre que ceux l'unissant à l'Union soviétique elle-même. Or, les relations claniques ou lignagères posaient un écran entre le citoyen individuel et l'État et faisaient donc obstacle à ce projet. Mieux valait donc, pour les ethnologues soviétiques, ignorer totalement les questions de parenté. Pour cette raison, dans les années 70, il était encore moins envisageable pour un chercheur occidental, s'il avait la chance d'obtenir un visa, de mener des recherches de terrain sur ces questions, alors qu'elles étaient incontournables dans son cursus en Occident. Un biais s'offrait pourtant pour contourner l'impossibilité d'étudier directement les questions de parenté sur le terrain, c'était de rassembler des fils épars puisés dans le totémisme aujourd'hui ou dans la pensée sauvage sur la toile de fond constituée par les rites de chasse d'Evelyn Notfalk. C'était, en fait, la saisie globale de la vie de chasse avec ses rites, ses gestes, ses histoires. Tout cet ensemble donnait à penser les relations au monde animal dans les termes de la parenté humaine. Plus particulièrement, il donnait aussi à entrevoir que l'idée largement répandue de complémentarité entre l'os et la chair n'intervenait pas seulement dans la conception des rapports de parenté, mais aussi dans le domaine des relations au monde animal et dans la conception du cycle de la vie en général. Bref, les données sibériennes semblaient elles aussi offrir aux chercheurs la matière d'une science du concret au caractère totalisateur, chaque aspect pouvant donner accès à l'ensemble. En effet, dans le contexte sibérien où l'on vit en petits groupes très éloignés les uns des autres dans un espace immense, la vie de chasse met au premier plan les relations avec l'environnement naturel, comme l'illustre l'exemple de Dersu Ozala, héros du célèbre film de Akira Kurosawa. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de ce chasseur Gold. Les Gold sont un petit groupe tungouze de la région de l'Amour, en Sibérie extrême-orientale. Si attentif à tous les animaux de la forêt, si habile à traquer les iblines tout en restant si respectueux à leur égard. Un jour, il tire un coup de fusil pour faire fuir un tigre qui rôdait autour de l'équipe du russe Arseniev qu'il avait pris comme guide. Involontairement, il blesse l'animal, ce qui est considéré comme une cause de malédiction. Pressentant la vengeance du tigre, il n'est alors plus le même, il dépérit. Comme pour tout à la fois conjurer et affronter cette vengeance, il repart en forêt et finit par être tué par un bandit qui voulait voler son fusil. Vivre de chasse en forêt impose d'observer envers les animaux sauvages quantité de règles analogues aux règles de la vie sociale entre humains. C'est à une conduite de respect et d'évitement que le chasseur doit s'astreindre envers le tigre qui n'est pas consommé. En revanche, il a l'obligation de faire alliance avec les espèces animales qu'il chasse pour s'en nourrir, comme il doit aussi faire alliance avec d'autres humains en vue de coopérer. Ainsi, la vie de chasse est-elle fondée sur les relations contractuelles scellées par des alliances, où les relations avec telle ou telle espèce animale peuvent interférer et ne cessent d'interférer avec celles entre groupes humains. La vie de chasse est donc doublement fondée sur une logique d'alliance. En 1980, une étudiante de maîtrise, Anne de Salles, devenue depuis chercheur au CNRS, mettait en évidence deux théories de l'alliance à partir de l'analyse de ce qu'il est convenu d'appeler « fête de l'ours » chez deux peuples sibériens. Cette fête se sert de la figure complexe de l'ours pour mettre en scène les relations d'alliance au sein de la société. Chez les Evenks du bassin du Yénisseï, le modèle est un type d'échange direct, différé, qui est mis en œuvre à l'occasion d'une chasse à l'ours hautement ritualisée. C'est la coopération pour chasser l'ours qui sanctionne l'alliance. La part du rabatteur de gibier revient au preneur de femmes, celle du tireur revient au donneur. Le rituel met en scène la coopération entre chasseurs alliés à travers une autre complémentarité illustrée par deux figures animales, celle de l'ours, présentée comme preneur animal de femmes humaines, et celle du corbeau, aide de chasse avec laquelle les chasseurs partagent leur proie, c'est-à-dire l'ours tué à l'orée de la tanière. C'est cette consommation d'une proie commune qui scelle la relation entre alliés matrimoniaux. Par contraste, chez les Nifres ou Gilliacs de la région de l'amour, le modèle d'alliance est un type d'échange indirect, dramatisé, selon l'expression d'Anne de Sales, à travers la mise à mort rituelle d'un ours captif, représentant la femme échangée, lors d'une commémoration funéraire. S'offrait ainsi tout un faisceau de pistes de recherche que les uns et les autres d'entre nous allaient emprunter, chacun à sa manière. Le rôle charnière de la figure de l'ours, la présence indispensable de la figure du corbeau dans la réalité de la chasse, plus largement la centralité de la notion d'alliance pour les peuples sibériens, prompt à étendre une telle relation au-delà du cadre de la vie sociale par l'intermédiaire de rituels jouant sur les positions respectives, l'idéal étant d'être toujours dans la position de maîtriser la relation avec l'autre. Cependant, il n'y a de fête de l'ours que chez quelques peuples de la forêt sibérienne. Encore n'y est-elle pas un rituel régulier, mais plutôt une occasion spectaculaire d'insister sur la place centrale des relations d'alliance et sur leur étroite imbrication avec la vie de chasse et d'ancrer dans le vécu la règle imposant de s'allier pour chasser. Rappelons-nous ici ce fragment de dialogue noté chez les Arapesh par Margaret Mead et que rapporte Claude Lévi-Strauss dans la conclusion des structures. « Mais si tu n'as pas de beau-frère, avec qui iras-tu chasser ?» En fait, l'avancée des recherches montrera que la centralité de l'alliance dans les sociétés sibériennes doit être envisagée essentiellement en tant que structure conceptuelle se manifestant éventuellement, mais non nécessairement, sous forme institutionnelle, ce qui du reste semble conforme à l'ambition lévi-straussienne. Mais les éléments concentrés dans ces fêtes se retrouvent avec des nuances partout ailleurs en Sibérie. Plus particulièrement, les figures de l'ours et du corbeau sont présentes partout, mais dans des rôles variables, aux côtés de celles de plusieurs autres animaux également bons à penser et également toujours mis en scène dans des rituels en rapport avec l'organisation interne de la société et sa place dans le monde. Chaque figure animale illustre à sa manière un tel entrelacs de relations à deux continuellement recomposables. Dans l'extrême-orient sibérien, c'est bien aussi une idée de dualité qui exprime la figure de l'ours, mais d'une autre façon. Une tête d'ours constituée de deux moitiés symétriques fortement stylisées qui se laissent identifier sur les robes des Nifres en peau de poisson. Elle rappelle la rigoureuse symétrie du motif animalier bien connu, appelé Taotie en chinois, le vorace, caractéristique des bronzes de la Chine ancienne, symétrie qui avait d'ailleurs inspiré à Claude Lévi-Strauss dans la Voix des masques un rapprochement avec de nombreux éléments décoratifs rencontrés chez les Indiens de la côte nord-ouest, comme il en a été question ce matin, cette question du dédoublement de la représentation, révélant une structure sous-jacente. Omniprésente est donc la figure du corbeau dont les groupes de chasseurs imitent les cris en vue d'attirer la chance à la chasse. Il n'y a pour eux rien d'aussi précis que le vol tournoyant du corbeau pour signaler la présence de gibier. C'est cette propriété, entre autres, qui vaut au corbeau de tenir, dans bon nombre de sociétés de la forêt, une place fondamentale. Son nom, que ce soit sous sa variété charognard ou sa variété casse-noix, forme couple avec celui de l'aigle, pour désigner des moitiés exogames en lesquelles s'organisent ces sociétés, comme bien d'autres ailleurs dans le monde. C'est cette fonction de structurer la société en moitiés exogames qui vaut à ce couple de volatiles sa célébrité dans les travaux sur le totémisme. Mais ces fonctions ne s'arrêtent pas là, à en juger par mes propres données comme par celles de Jean-Luc Lambert. Pour les peuples sibériens, en effet, l'association des figures de rapaces et de charognards ou d'indicateurs de gibier qui illustre les noms d'aigle et de corbeau, va au-delà de la position complémentaire entre moitiés. Significativement, les mythes Nganasan, qui relatent l'origine des groupes nommés aigle et corbeau, attribuent des rôles semblables aux deux oiseaux, sans tenir compte de la différence dans leurs fonctions, comme le remarque Jean-Luc Lambert dans « Sortir de la nuit ». Leur association exprime dans l'absolu de l'idéologie la nécessaire complémentarité pour mener une vie fondée sur la chasse, entre les tâches de tireur et de rabatteur réparties entre alliés matrimoniaux et interchangeables. Ceux-ci doivent assumer ces tâches tour à tour, comme ils assument tour à tour les positions de preneur et de donneur dans l'Alliance, sans jamais les cumuler dans l'instant. Mais revenons au peuple de la forêt. Complémentarité, équivalence, alternance, autant de principes articulés qui, chez eux, trouvent leur plus forte et complète expression dans leur système symbolique global, connu sous le nom de chamanisme, qui vise à leur permettre, tout simplement, de vivre de chasse. Ils se présentent de prime abord comme une construction symbolique établissant, avec le monde des espèces sauvages constituant le gibier comestible, une relation d'alliance conçue sur le modèle de l'alliance matrimoniale entre moitiés exogames. La communauté humaine investit un chaman pour réaliser cette alliance au cours d'un long rituel où il doit épouser un esprit femelle de grand cervidé, reine ou élan, gibier par excellence. En qualité de mari, il aura toute légitimité pour obtenir de son épouse des promesses de gibier de son espèce. Sa prise symbolique est censée préfigurer celle réelle des chasseurs participant au rituel. La logique de l'alliance qui sous-tend ce rituel impose qu'il procède à un don en juste retour de sa prise. Lui dont la coiffe est ornée d'une ramure de cervidé, mâle preneur de femme destiné à finir en gibier. La règle dans la forêt est en effet que, de même que les humains se nourrissent de gibier, de même les esprits animaux se nourrissent de la force vitale des humains. La prise rituelle du chaman ayant fait fusionner les notions de femme et de gibier, le chaman devra, en fin de rituel, couché sur le dos, assumer au nom des humains cette double situation, offrant sa force vitale aux esprits animaux et préfigurant ainsi la mort à venir de certains des participants. Son art réside dans la gestion du temps entre la prise et le retour de la contrepartie qui correspond au temps de la vie humaine. Présenté sous le signe de la réciprocité et de l'alliance et de l'alternance entre les positions, comme l'alliance entre humains ordinaires, l'alliance avec les esprits des espèces gibiers est en réalité manipulée par le partenaire humain de façon à en tirer le plus grand parti possible. Aussi, la notion de jouer est-elle présente d'un bout à l'autre de rituel qu'elle sert même souvent à qualifier. Jouer sur le compte des promesses prises et des promesses faites, jouer à faire l'animal tout en restant humain, jouer à imiter les ébats et les combats de l'espèce sauvage alliée face aux esprits et faire jouer à ces mêmes ébats et combats imités des animaux, les participants humains, mais entre eux. Tous les détails de ce rituel s'éclairent à la lumière des propriétés des espaces sauvages imités, comme à la lumière des positions qui leur sont assignées dans l'économie des rapports que les humains veulent établir avec telle ou telle espèce gibier, ou plutôt avec l'esprit censé l'animer. Si celui-ci est un partenaire incontournable, et si l'alliance avec lui contrainte à rendre à son monde pour ce qui lui a été pris, elle est conçue comme éminemment temporaire. Le rituel est à rejouer totalement à chaque saison pour réactualiser cette alliance. Des dictons associent l'alliance de chasse à l'idée de durée limitée. On se dit par exemple « allié pour un an, allié pour 5 ans ». Une telle souplesse est aussi ce qui se dégage du constat fait par un jeune collègue hongrois, István Csanta, chez les évêques vivant au nord du lac Baïkal. Il continue de nos jours, dit-il, à préférer les alliés aux parents en raison de la précarité et de la mobilité des liens d'alliance plus compatibles avec leur tempérament d'extrême indépendance. De part et d'autre de la forêt, où la chasse ne domine plus la vie, des figures animales similaires restent associées à la notion d'alliance et à sa mise en scène rituelle. Au sud, chez les Bouriates, le jeune marié est comparé à un taureau, animal qui prend le relais du renne comme figure de virilité. Auparavant, il a dû, pour être admis au mariage, participer aux luttes corps à corps qui émaillent les grandes fêtes estivales. Là, il a d'abord imité les battements d'ailes de l'aigle avant son envol, puis les trépignements du ruminant cordu, prêt à affronter son rival. Plus largement, les relations d'alliance sont ce qui structure la société, comme l'a montré Rodica Pop, à partir de l'analyse d'un terme mongol, teru, qui désigne à la fois le rituel de mariage et la notion de régime étatique ou de formation nationale. Cette collègue de l'Académie des sciences de Bucarest montre en quoi le rituel de mariage est, comme disent les peuples mongols, une affaire d'État qui échappe à l'emprise des institutions politiques et religieuses. La tradition nomade fait en effet des liens d'alliance le principe structurant du tissu social comme des rapports au milieu nourricier, envisagés dans l'interdépendance. Il en est ainsi aussi tout au nord, dans la toundra de la presqu'île de Taïmyr, où vivent les Nganasan, peuple samoyède de chasseurs et éleveurs de rennes. Là, selon l'étude de Jean-Luc Lambert, le rituel annuel mené au moment de sortir de la nuit polaire comporte des éléments qui évoquent la notion d'alliance. La démarche du chaman, muni de la canne caractéristique du marieur, suggère que le partenaire spirituel épousé est la fille du soleil. Mais pour être habilité en tant que tel, le chaman doit avoir chassé, symboliquement toujours, un renne esprit qui est matériellement associé à son tambour. Là encore, la logique des rituels met en scène l'articulation de la notion d'alliance avec le vide de chasse, le rapport humain au monde et le rapport entre vivants et morts. Ailleurs encore, chez les Koryaks, qui vivent de chasse sur le littoral de la presqu'île du Kamtchatka, c'est un rite de chasse, l'ololo, que la communauté confie chaque année sa reproduction en tant que telle dans son environnement. Il n'y a ni intervention d'un chaman, ni appel à des mythes, souligne Patrick Platé, qui a analysé ce rite en détail dans « Le double jeu de la chance ». Les modes privilégiés de ritualisation sont non linguistiques, ajoute-t-il. Ce sont des danses, des courses, des jeux imités de certains animaux sauvages, et aussi la fabrication de figurations d'animaux d'espèces gibier. On retrouve dans ces imitations et ces figures de substitution, à côté du phoque, gibier par excellence, en ce bord de mer, l'ours et le corbeau. Si l'imitation et la substitution sont pour l'auteur des catalyseurs essentiels de l'efficacité prêtée à ce rituel, il note aussi la part des processus cognitifs dans l'instauration des relations avec les esprits animant les êtres sauvages. S'appuyant sur plusieurs passages de l'efficacité symbolique et du sorcier et sa magie, qui lui semble annoncer certaines des plus récentes théories de l'esprit, il relativise la place du symbolique dans l'efficacité attribuée au rituel, alors même qu'il n'y a plus consensus sur la vue du monde dans le contexte contemporain. Dans une perspective similaire, Charles Stepanov retient lui aussi de Claude Lévi-Strauss cette exigence explicite d'interroger la réalisation concrète du système symbolique d'une société dans le psychisme individuel de ses membres. Nous ne pouvons jamais être sûrs d'avoir atteint le sens et la fonction d'une institution, écrit Lévi-Strauss dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, si nous ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une conscience individuelle. Pour comprendre la relation imaginaire du chaman aux esprits chez les Touvas, Charles Stepanov l'oppose à la relation aveugle et appauvrie des profanes à des esprits. C'est ainsi qu'il en vient à s'intéresser aux aspects essentialistes de la mise en œuvre psychologique concrète d'un système qui, conceptuellement, est relationnel. Le répertoire gestuel du chaman s'oppose à celui du profane dans la mesure où il met en scène une interaction. Si l'imitation de l'aigle est accessible à tous les lutteurs et celle du brame du cerf à tous les chasseurs, l'imitation d'un dialogue ou d'un contact avec des animaux invisibles définit automatiquement celui qui l'entreprend comme un chaman. Or, la capacité à l'action chamanique s'appuie souvent, ajoute Stepanov, sur des hypothèses concernant le corps même du chaman depuis sa naissance. De même que dans les épopées de Sibérie du Sud, les héros prédestinés à s'épouser portent une marque de naissance sur le foie ou la cuisse, de même, celui qui aura pour tâche la maîtrise de l'alliance avec les esprits se voit attribuer des caractères physiques tels une tâche de naissance ou un os surnuméraire. Au terme de cette brève présentation, certains, notamment les américanistes, dont le domaine est souvent comparé au domaine sibérien, se seront peut-être étonnés de ce qu'elle n'ait fait que très peu de part à la mythologie. Plusieurs raisons rendent compte de la modeste présence des mythes dans les recherches en Sibérie. L'une tient peut-être au fait que beaucoup d'informateurs locaux ne considèrent pas comme des mythes les histoires que l'on raconte chez eux, car bien évidemment, les peuples sibériens adorent, comme tous les autres, raconter des histoires, et ils parlent plus volontiers de contes animaliers, d'histoires claniques, de légendes locales, ou d'histoires tout court. Ces divers types de récits sont extrêmement variables, très irrégulièrement connus des membres d'une même communauté. On peut aussi penser que s'ils ne sont pas plus souvent qualifiés de mythes par les chercheurs étrangers, c'est qu'ils ne sont pas appelés à fonder une pratique. En outre, même quand certains récits sont reconnus comme des mythes, car ils retracent une origine, ils n'apportent pas forcément un éclairage pertinent sur les pratiques ou les représentations. Ainsi, de même que les mythes d'origine de l'ours s'étaient révélés de peu de secours pour rendre compte de la fête de l'ours dans sa globalité, de même les mythes d'origine du chaman Bouriat n'aident guère à comprendre les fondements du chamanisme en vigueur dans cette population. D'une manière générale, d'autres matériaux sont apparus offrir une prise plus solide et régulière à l'analyse, les rituels, les objets ou d'autres formes d'expression narrative, entraînant ainsi une tradition de recherche centrée plutôt sur d'autres types de données que les mythes. Ainsi, Patrick Platé a-t-il remarqué que chez les Koryaks, le rituel prend souvent le contre-pied de la pensée mythique. De plus, de nombreux récits présentés comme mythes frappent par leur caractère de réaction aux traditions universalistes propagées chez ces peuples, le christianisme orthodoxe à l'ouest, le bouddhisme à l'est. C'est ainsi que le déroutant mythe d'origine du chaman Bouriat lui prête initialement l'ambition de ressusciter les morts grâce à son tambour à deux faces, pour le priver ensuite de ce pouvoir excessif par la suppression de l'une des faces de son tambour, alors que le clergé bouddhique, lui, dispose de tambours à deux faces. Pour sa part, Jean-Luc Lambert note que les mythes des peuples obougriens ne racontent pas une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts, et qu'ils ne se laissent guère analyser comme un objet autonome. Il repère cependant, dans certaines séries de mythes, des mécanismes de transformation comparables à ceux mis en évidence dans les mythologiques pour les mythes amérindiens. Il en est ainsi des chants de l'ours dont les transformations permettent de tisser des liens entre l'attribution d'une origine céleste à l'ours, il dit avoir été, à l'image du Christ, envoyé du ciel sur terre par son père, et des liens donc entre l'attribution de cette origine céleste, ce que l'on appelle sa fête, où il est mis à mort et célébré, et le rôle qui est imparti à sa figure, la figure de l'ours, dans l'Empire russe. L'ours y est en effet érigé en divinité impossible à tromper et pouvant donc garantir la prestation de serment exigé par le pouvoir. C'est comme note finale, je voudrais rapidement évoquer l'épopée pour clore sur un contraste entre le monde sibérien et le monde amérindien, cette présentation qui a plutôt cherché à faire la part belle au parallèle entre ces deux mondes. L'épopée, en effet, est un genre narratif qui remplit une fonction mythique véritablement fondatrice, idéologique, chez nombre de peuples sibériens, alors que les mythes, par comparaison, paraissent plutôt chercher à tirer les leçons des échecs ou à expliquer les lacunes. Et elle est présente donc chez un certain nombre de peuples sibériens qui, tout en gardant leur âme de chasseur et se nourrissant toujours de gibier, élèvent des rennes ou des chevaux qu'ils attellent, qu'ils montent et qu'ils traient souvent. L'absence conjointe d'élevage et d'épopée chez la plupart des peuples amérindiens donnerait-elle raison à le chercheur américain Lawrence Crider qui aimait à dire « pas d'épopée sans lait, pas de lait sans épopée » et il ajoutait, comme petite provocation à mon égard, « est-ce que ce n'est pas là quelque chose qui plairait à Lévi-Strauss ?» Une fois de plus, ce n'est pas tout.
Merci, Roberta Maillon. Nous aurons le temps de discuter de ce très riche exposé à la suite des deux autres, puisque nous aurons une période réservée aux questions. Et je vais donner tout de suite la parole à Françoise Héritier, qui a succédé à Claude Lévi-Strauss, ici même, comme professeur, et qui, dont les travaux bien connus sur la parenté, à la fois prolongent et aussi transforment certaines des hypothèses de Claude Lévi-Strauss. Et donc, cette part importante de réservée à la parenté que j'annonçais ce matin, eh bien, Françoise Héritier, vous allez nous donner l'occasion de l'évoquer avec vous.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, si j'ai choisi ce titre à la simplicité un peu rustique, c'est autant pour en revenir aux « fondamentaux » entre guillemets et aux problématiques qui ont fait la réputation de Claude Lévi-Strauss à ses débuts, que pour souligner, depuis l'apparition des structures élémentaires de la parenté en 1949, la formidable ténacité des idées qu'il y a exprimées et, au-delà de la permanence des questions soulevées, la fécondité de leur ensemencement au sein d'une recherche actuelle, rare il est vrai compte tenu de l'aridité du sujet, mais persistante et de haut niveau, et que je salue ici. Ce que je voudrais cependant exposer trop brièvement, certes, ce sont mes positions fondées sur mes propres travaux de recherche, sur trois thèmes principaux dont je souhaiterais montrer l'agencement logique et l'interpénétration. Au-delà de la fidélité aux questions posées par Lévi-Strauss, les réponses différentes que j'ai pu y apporter témoignent d'une vérité essentielle. L'important n'est pas dans la réponse, elle est dans la question. Et les questions qu'a soulevées Claude Lévi-Strauss gardent toujours leur incroyable force d'appel. Ces trois points dont je souhaite montrer la cohésion nécessaire qui les unit sont les suivants. Comment fonctionne, en fait, le choix du conjoint dans les structures complexes et semi-complexes de l'alliance matrimoniale? Deuxièmement, pour quelles raisons la prohibition de l'inceste est-elle apparue comme une nécessité dans la conscience des humains? Comment s'est-elle établie de façon aussi tenace et constante que Lévi-Strauss a pu la présenter comme une, sinon la seule loi universelle régissant les hommes en société? Enfin, troisièmement, peut-on toujours parler de l'échange matrimonial comme conséquence ou comme cause de la prohibition de l'inceste? Et ne peut-on, à la lumière de ce qui précède, expliquer l'échange des femmes lévi-straussiens par d'autres soubassements de la pensée que la compréhension naissante qu'il était nécessaire de créer des liens sociaux durables et pacifiques entre groupes consanguins antagonistes? Vous me direz rien que ça, mais enfin c'est bon, c'est un grand coup de pelle. Alors, ce plan peut sembler ambitieux. J'aurais pu tout aussi bien le présenter dans l'autre sens. Après mûre réflexion, il m'a semblé que l'exposé serait plus facile à suivre pour un auditeur non averti, car je ne pense pas que les spécialistes de la parenté dominent dans cet amphithéâtre si j'exposais les faits dans l'ordre tel que je viens de le présenter. Alors, comment fonctionne donc le choix du conjoint dans les sociétés à structure semi-complexe et complexe de l'alliance ? Alors, deux mots d'explication nécessaires cependant. Les structures élémentaires de l'alliance matrimoniale sont celles où, de par sa naissance, le choix du conjoint pour tout individu est orienté de façon préférentielle forte vers certaines catégories de parents consanguins. Toute la nouveauté de la recherche structurale de Lévi-Strauss en ce domaine a été de mettre de l'ordre, une logique et des dénominations communes sur des pratiques considérées avant lui comme éparses, relevant de l'arbitraire, dénuées de cohérence entre elles. Il montre leur sens et leur cohérence. Il distingue les sociétés qui pratiquent l'échange restreint et celles qui pratiquent l'échange généralisé. Accessoirement, l'échange restreint différé, je vous épargnerai l'explication de ces termes. Mais toutes les sociétés ne fonctionnent pas ainsi, loin de là. Lévi-Strauss s'est sagement arrêté au seuil de ce qu'il a globalement appelé les structures complexes de l'Alliance, appelant de ses voeux la postérité ethnologique à vérifier si le choix du conjoint y obéit aussi à des règles cachées, peu nombreuses, qui organiseraient le champ. Alors, par structure complexe de l'Alliance, il faut entendre celles qui, au lieu d'orienter positivement le choix, procèdent par des interdictions. Alors, c'est le cas des sociétés occidentales, évidemment, ou en dehors des degrés de parenté prohibés par la loi et par l'Église, qui touchent des consanguins et aussi des parents par alliance, on reviendra là-dessus, chacun est apparemment libre de choisir son conjoint comme il l'entend. Entre les élémentaires et les complexes, j'ai introduit la catégorie des structures semi-complexes que Lévi-Strauss intégrait dans les complexes, illustrées dans des sociétés qui fonctionnent elles aussi avec des interdictions, parfois extrêmement nombreuses, mais qui, au lieu de porter sur des individus caractérisés par une relation généalogique de consanguinité et d'alliance entre eux, portent sur des ensembles de personnes définies par une règle de filiation patrilinéaire ou matrilinéaire. Alors, ce n'est pas le degré réel d'apparentement qui compte, mais le fait que le conjoint potentiel appartient de par sa naissance, selon la règle de filiation, à l'un des lignages, lignées ou groupes de descendance prohibés. Ainsi, dans des sociétés à structure semi-complexe, de type Omaha, avec filiation patrilinéaire et résidence patrivirilocale, ce qui aide d'ailleurs à la reconnaissance des appartenances par l'affectation à un espace, un individu, égo masculin, en droit, comme dans le discours des informateurs, ne peut prendre une épouse dans son propre lignage, dans celui où est née sa mère, dans ceux où sont nées ses deux grands-mères. Alors s'y ajoutent bien d'autres interdictions, comme celle par exemple, chez les Samo, d'épouser une femme dans un lignage qui a déjà fourni une épouse à quelqu'un qu'Ego appelle mon frère ou appelle mon père, c'est-à-dire en fait à tous les hommes de son lignage qui appartiennent soit à sa génération, soit à la génération au-dessus. Ça fait beaucoup. Interdiction d'apparence d'ailleurs fort énigmatique, mais dont la raison d'être relève de la sphère cognitive et qui a des conséquences sociales extrêmement fortes. Alors pour Lévi-Strauss, ces structures doivent entraîner une turbulence permanente du champ de l'alliance et son extension indéfinie dans tous les sens, soit en raison de la grande variété de choix qui est offerte par les structures complexes, les nôtres, soit, pour ce qui est des structures semi-complexes, en raison de l'obligation pour Ego d'éloigner son regard de tous les lignages consanguins et de tous les lignages déjà affins avec lui, sous certaines modalités, ainsi par exemple aussi l'impossibilité de prendre une épouse dans le lignage qui lui en a déjà donné une ou dans les lignages ascendants de ses femmes, par les femmes. Alors, dans l'introduction à la deuxième édition aux structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss pose la question avec force. Peut-on vraiment déceler des régularités structurales? Et si oui, de quel ordre sont-elles? Et comment faire pour y parvenir? Il s'autorise quelques hypothèses sur ce deuxième point, donc sur les moyens, les mathématiques, dit-il, ou aussi les simulations. Il faut noter d'ailleurs qu'à l'époque de cette deuxième édition, l'informatique, certes, était en marche, mais elle n'était pas encore appliquée aux sciences de l'homme et de la société. La question de la turbulence de ces systèmes est toujours à l'ordre du jour. S'y ajoutent, dans l'esprit d'auteur qualifié, deux hypothèses qui, toutes deux, posent en pétition de principe l'inexistence de ces régularités potentielles dans le champ des structures complexes, ou du moins, pour l'une de ces hypothèses, l'inexistence de régularités fondées sur le jeu de la parenté elle-même. Si elle s'observait, selon cette hypothèse, elle serait le résultat de forces économiques, politiques ou idéologiques. Dans la deuxième hypothèse se fonde quant à elle sur l'idée du primat supposé dans le fonctionnement de ces systèmes, de la liberté individuelle de choix selon des stratégies qui n'obéiraient pas à des contraintes dictées par la parenté. Ces deux hypothèses se fondent, à mon avis, sur des prémices erroné parce que non questionné. Peut-on accepter d'emblée l'idée d'une turbulence induite par des règles prohibitives qui disperseraient au lieu de concentrer? C'est là le postulat lévi-straussien. Peut-on penser, deuxièmement, que les stratégies individuelles ont toujours des raisons fortement contrastées et indépendantes les unes des autres et ne se coulent pas, sans même s'en rendre compte, dans les moules qu'elles ont contribué à établir? En tout cas, pour répondre à ces questions, j'ai voulu y voir par moi-même selon une autre méthode que celle que préconisait Lévi-Strauss. J'ai voulu voir comment une communauté s'y prend effectivement quand elle est immergée dans une structure semi-complexe de l'Alliance. C'est donc à partir d'un relevé généalogique et matrimonial le plus complet possible sur trois villages Samo, les lignages de trois villages Samo, que j'ai travaillé en bâtissant ensuite des hypothèses et en utilisant, c'était ma chance, l'informatique naissante, grâce d'ailleurs à l'aide d'une informaticienne, Madame Marion Sels, que je remercie encore profondément. Or, qu'ai-je trouvé? Bien, contrairement aux attentes, c'est-à-dire aux présupposés lévi-straussiens de cette turbulence sans régularité, le système fonctionne en vase clos, endogamie locale et consanguine réunie, grâce à une organisation logique sans faille qui articulent entre eux les interdits. Un postulat de base s'impose dans ce cas. Si deux frères ou deux sœurs ne peuvent renouveler une alliance, un frère et une sœur le peuvent, ce qui autorise l'échange des sœurs, l'échange restreint immédiatement. Par ailleurs, le jeu combiné de la polygynie, de la différenciation de lignées collatérales par les frères, un homme n'est pas tout seul, il a de nombreux frères et il a plusieurs épouses, l'antagonisme apparent qui se confond en un engrenage nécessaire des interdictions, tout cela permet à la fois de réaliser des bouclages dans la consanguinité au plus proche des catégories interdites, mais aussi l'établissement de cycles d'alliance, échange restreint, bouclage dans la consanguinité, cycle d'alliance, donc de type des structures élémentaires de la parenté. On voit en quelque sorte fonctionner l'échange restreint direct ou différé et l'échange généralisé, à cela près que dans les structures élémentaires décrites par Lévi-Strauss, on se réserve les parentes égaux masculins, se réserve, si je puis dire, ses parentes proches en laissant les parentes éloignées aux autres, alors qu'ici, on choisit à l'inverse, parmi des parentes relativement éloignées, quatrième ou cinquième degré, canon, en laissant les plus proches à la disposition d'autrui. Alors, à côté de bouclage et de cycle, on observe une remarquable propension à l'échange régulier et pondéré entre de mêmes lignages. Comment cela est-il donc possible? Eh bien, c'est possible par le changement et l'alternance de lignées indépendantes au sein de mêmes lignages, mais aussi par le jeu du glissement et de l'articulation des interdits les uns par rapport aux autres. Ainsi, par exemple, si Ego ne peut se marier dans le lignage de sa mère, ni dans celui d'une autre épouse de son père, ni dans ceux des épouses de ses oncles paternels, ni dans celui de sa grand-mère paternelle, il peut en revanche épouser une femme appartenant à un lignage qui a donné une autre épouse à son grand-père paternel. Et c'est même un mariage préférentiel. Ou encore, si un homme a reçu deux femmes qui, de par le jeu des interdits, sont nécessairement non apparentées entre elles, puisqu'il ne peut pas épouser une femme qui est apparentée à une précédente épouse, il peut rendre au lignage qui lui en a donné une la fille qu'il aura eue de la seconde, sans rompre aucun des interdits de parenté. Alors, toutes sortes de coups sont ainsi possibles et d'aménagements réguliers par l'effet soustracteur, et j'insiste là-dessus, et non pas cumulatif, additionnel, des prohibitions. On voit donc opérer les mêmes grands mécanismes que dans les structures élémentaires de la parenté. J'ajouterai même, ayant assisté à des comptabilités faites par les doyens de lignage lors de conseils, que ces échanges sont conscients, organisés, remémorés. On a pu m'objecter, certains auteurs anglo-saxons auxquels je pense, qu'il s'agit là d'un cas unique, d'un apax, mais je ne le pense pas. D'après les quelques informations dont je dispose sur d'autres sociétés relevant du même régime, je peux avancer assurément que c'est bien de l'agencement intime et remarquable des règles régissant le champ de la parenté et de l'alliance que naît la structure. Les objets qui y participent peuvent changer de définition. Ce pourra être des hameaux, par exemple, au lieu de lignage, comme chez les Mkako étudiés par Elisabeth Coppet, mais cela n'enfreint pas la logique même du système. Alors, dans le cas des structures complexes de l'alliance, dans des sociétés à filiation cognatique essentiellement, c'est-à-dire sans ligne sociale fonctionnelle d'appartenance par filiation et à grand développement démographique, comme c'est le cas pour les sociétés occidentales, là aussi la surprise est grande. En dehors des travaux ethnologiques, comme ceux de Martine Ségalen ou de Pierre Lamaison, je me réfère surtout ici aux travaux d'historiens et aux excellentes analyses et synthèses qui ont été réalisées par Gérard Delisle, dont la dernière s'intitule « Parenté et alliance en Europe occidentale, un essai d'interprétation générale ». Il exploitait de nombreux corpus, publiés ou mis en ligne, puisque maintenant on peut mettre en ligne, par des collègues sur différentes régions d'Europe, sur une période allant du XIIIe au XVIIIe siècle inclus, et sur des populations tant nobles que roturières. Et cela représente à peu près une douzaine de corpus qui vont de la Haute Lotharingie à Fégréac en Bretagne, en passant par la Cornouaille, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Alors, le travail de référence c'est le sien propre, à savoir l'analyse exhaustive qu'il a menée de, je traduis, le grand livre des familles de Mandouria, en Italie du Sud. Après le concile de Latran, en 1215, qui fixa les interdits au quatrième degré canon, et afin de pouvoir s'y retrouver dans sa propre pratique quotidienne, un archiprêtre, fort zélé et intelligent, entreprend de tenir un registre, donc en 1215-1216, qu'il nourrit dès le départ par une enquête orale, donc une enquête ethnologique, qui lui permet de remonter un siècle en arrière et de connaître les parentés existants et paroissiens à l'époque où il établit le livre. Le livre fut ensuite tenu, selon les modalités qu'il avait inventées, par ses successeurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous imaginez la qualité d'un matériau de ce type. C'est une source rêvée. J'ajouterai à ces travaux ceux incroyablement méticuleux et précis qui ont été conduits par Guy Tassin, décédé récemment, sur Aveluy, dans le nord de la France, entre les XVIIe et XIXe siècles, à partir de tous les documents d'archives accessibles. À quelle conclusion arrive donc Gérard Delisle à partir de tous ces travaux? Il montre avec certitude que la fixation définitive des noms de famille voulue par l'Église, cette fixation aidant, on voit une tendance forte à la reconnaissance de lignées de transmission du nom du père et des lignées paternelles des épouses, ce qu'on pourrait désigner, si je peux m'exprimer ainsi, comme des sortes de crêtes de patrilinéarité dans un tissu cognatique de filiation. Paraît régulièrement, les crêtes de patrilinéarité. Et dans tous les cas, il décèle, dans tous les cas, deux règles fondamentales. On ne peut se marier dans le nom du père, ni dans le nom des mères, c'est-à-dire le nom de la mère et celui de la mère du père. Alors, il ne parle pas de lignage, puisqu'il ne s'agit pas proprement de parler, mais c'est l'équivalent, c'est dans le nom patrilinéaire du père ou des deux mères et grand-mères paternelles. Les pourcentages d'infractions sont incroyablement faibles, entre 0,1 et 0,5%. Bon. Il s'agit en quelque sorte d'interdits portant sur des lignées patrilinéairement définies, et cela au très long cours, car sur plusieurs siècles. Il observe en outre une série de pratiques hautement préférentielles, des bouclages dans la consanguinité, comme dans les systèmes semi-complexes, dès que cela devient possible immédiatement, et surtout des échanges réguliers, en faisant jouer, comme dans les structures semi-complexes, le recours à ce passage aux lignées collatérales alternées. Rien en tout cas qui ressemble à cette turbulence inorganisée pressentie, ou à un système éclaté, où des conjoints se prendraient au loin dans des configurations totalement aléatoires. Les structures complexes peuvent donc obéir à des lois et à des régularités dont les mécanismes sont les mêmes que ceux des structures élémentaires. Restreint ou généralisé, elle pratique l'échange, la reduplication et le choix préférentiel dans la consanguinité. Néanmoins, quelque chose s'est passé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, où l'on observe curieusement une montée en flèche, simultanément des unions entre cousins dans un degré beaucoup plus rapproché et une dispersion des échanges réguliers entre les lignées alternées. La force du nom n'est plus la même. Si, faute de sources, nous savons peu de choses sur la pratique de l'alliance avant Latran, nous devons nous atteler désormais à la tâche de comprendre la brutalité et la nature du changement opéré dans les structures complexes de l'alliance de nos sociétés occidentales au XIXe siècle et découvrir quelles sont les nouvelles lois de fonctionnement de ces systèmes en raison de grands impératifs de nature cognitive vraisemblablement. Alors, le regard sur le monde a changé. De la même façon, il conviendrait de mener des études locales, concrètes et détaillées, qui manquent pour le moment, sur le fonctionnement des sociétés non occidentales et possédant aussi des structures complexes de l'Alliance. On est loin, semble-t-il, de l'hypothèse de départ d'une turbulence forte sans régularité structurelle décelable. La question devient, pourquoi ces mécanismes si proches de ceux décrits par Lévi-Strauss pour les structures élémentaires ont-ils une telle nécessité à être? À quelle profondeur des besoins humains correspondent-ils? Alors, une parenthèse est ici nécessaire. Sur mon terrain, j'ai été amenée à observer et à comprendre un système local de représentation de la nature genèse et transmission du sang. Tout corps humain est censé, chez ces gens-là, receler 8 souches sanguines que, pour utiliser notre langage, j'appellerais dominantes. Il y en a 2, celles qui passent par le père et par la mère. De récessives, il y en a encore 2 qui passent par la mère du père et la mère de la mère. Et enfin 4 résiduelles qui passent par les 4 arrière-grand-mères. En fait, dans le cas des passages par les femmes, il s'agit du sang du père transmis par ces différentes femmes. Alors, chacun des parents, à son tour, ne transmet à l'enfant que ses 4 premières souches, les autres n'étant plus là que sous la forme de traces infinitésimales. Il faut 3 générations pour que s'efface une trace sanguine qui passe par une femme. Or, le grappin de l'alliance, pour reprendre l'expression de Pierre Damien, favorise l'union de personnes consanguines au-delà de ce délai, justement celles qui ont entre elles cette forme de familiarité des sangs due à ces traces infinitésimales résiduelles. Le trop près incestueux est gros de danger collectif, le trop éloigné est inquiétant par crainte d'incompatibilité entre les sangs. Mais à ce niveau, celui où il y a des traces qui restent des traces communes entre les 2 conjoints, mais à ce niveau, les individus sont mitridatisés en eux face à la puissance du sang. Alors, le système SAMO est certes raffiné et particulier, propre au SAMO, mais il est hors de doute à mes yeux que toute société élabore des conceptions relatives au corps, substance, humeur, à leur genèse, à leur transmission, et que ces conceptions sont en œuvre, sont en harmonie avec leurs règles d'alliance. Nous passons du domaine de la règle sociale à celui de la représentation, non seulement de la représentation de la règle elle-même, mais celle du corps et du cosmos. Dans le scénario célèbre de Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste est la seule loi universelle et elle a sous sa forme positive contraint des groupes consanguins qui se reproduisaient sur leur propre force à accepter la nécessité de l'échange. Nos ancêtres auraient-ils eu prescience des avantages et du charme de la vie pacifique entre alliés consentants, et était-il nécessaire pour cela d'aller jusqu'aux rigueurs de la prohibition de l'inceste dans toute la variété des situations qu'elle revêt? Pour ne pas se faire tuer lors des raids de prédation, d'autres types d'accords, ponctuels ou durables, auraient pu être montés qui n'auraient pas eu le caractère contraignant et définitif de la prohibition de l'inceste. Rappelons d'autre part que si la prohibition portant sur les consanguins peut expliquer l'ouverture sur l'échange entre groupes, cette explication ne vaut pas pour les prohibitions qui portent sur les parents par alliance. Après tout, si un homme épouse une femme qui lui est permise par les règles, il aurait pu tout aussi bien épouser la sœur germaine de cette femme, la sœur qui partage les mêmes parents. Bon. Pourquoi celle-ci lui devient-elle interdite dans un grand nombre de sociétés, même au-delà de la mort de son épouse? La réponse se situe dans des représentations, donc dans des idées construites et psychologiquement affermies et effectives. Ces questions et l'analyse de cas m'amènent à postuler que la prohibition de l'inceste n'est pas simplement les prolégomènes nécessaires pour des échanges fondateurs du lien social. Plus profondément, elle ressortit d'une question essentielle que se pose toute forme d'humanité. Comment se constitue la substance même des corps et des fluides? Qu'est-ce qui constitue l'identité et la différence? Qu'est-ce qui sépare le soi de l'autre? Et d'un même mouvement, ce qui entraîne le plaisir de l'entre-soi de la consanguinité ou de la parenté en général, être avec ses proches, et le plaisir de l'entre-soi de sexe, être avec ceux qui partagent la même forme identitaire. Entre le même et le différent, que choisir? Vaut-il mieux pratiquer le cumul de l'identique ou au contraire rechercher des écarts maximalistes? Dans les 2 cas, les sociétés postulent des effets imaginé par l'esprit, selon l'idée d'une correspondance qui existe entre le corps, les actes humains et le cosmos, selon des variations intéressantes le long d'un vecteur qui va du refus du cumul d'identique ou de la rencontre de substances identiques, à son acceptation la plus grande possible, se pose la question très prosaïque du contact entre des substances corporelles. Lorsqu'elles sont de même nature et que leur contact est réprouvé, c'est l'inceste, il est censé déclencher des catastrophes, stérilité, sécheresse ou inondation, hémorragie, qui touchent les hommes, les animaux, la terre. L'inceste, que j'ai appelé du deuxième type, quant à lui, relève de ce mécanisme de pensée, mais il implique cette fois-ci non pas deux consanguins de sexe différent en relation directe, mais deux consanguins qui ont même forme, qui ont même sexe, dont les substances sont amenées à se toucher par l'intermédiaire d'un partenaire commun. Il met en présence ainsi un père et son fils, qui partageraient une même épouse, une même femme, une mère et sa fille, deux frères ou deux sœurs. Cet inceste-là est axé des mêmes conséquences que l'inceste consanguin direct. S'il n'a rien à voir avec la nécessité de l'échange, mais tout avec la construction imaginaire de la substance, en ensemble différencié notamment par la transmission et l'alimentation, qui se tolèrent ou ne se tolèrent pas entre eux. À la base donc de la prohibition de l'inceste, valable tant pour l'alliance que pour les rapports sexuels, on trouve une construction de l'esprit imaginaire avec les différentes possibilités qu'elle peut offrir et qui est donc représentée dans différentes sociétés. Une seule de ces deux variantes aura pour effet et non pour cause d'instaurer l'exogamie. Un point annexe et important, l'inceste du deuxième type est fondé sur l'idée d'une identité particulièrement forte entre deux personnes ayant même substance consanguine, mais aussi même forme sexuée, d'où son efficacité dans le cas des sociétés qui ont cette représentation pour refuser les mariages entre alliés, entre beaux-frères et belles-sœurs par exemple. Cet interdit particulier n'a été levé en Europe, je le rappelle, après veuvage que vers 1918 et seulement en 1982 par le droit civil après divorce. C'est dire la force de l'idée qui n'a pas été créée par l'Église et pour notre profit dans nos sociétés occidentales, mais qui a été renforcée par elle. Les questions posées par l'humanité sur la substance et ce qui fait l'identité dépassent largement en antériorité et parfois en complexité celles qui nous viennent de la théologie chrétienne. On en vient au troisième point. L'échange des femmes est-il une nécessité découlant de la prohibition de l'inceste ? Y a-t-il toujours véritablement échange au sens strict lorsque ne sont pas décelables de véritables groupes échangistes, comme c'est le cas dans nos sociétés occidentales contemporaines, en gros, et ce depuis le 19e siècle ? Et il faut certes aller y voir sur le terrain de façon attentive et méthodologiquement bien rodée. Il me semble toutefois qu'on peut poser la question autrement. Il s'agirait moins de l'échange des femmes entre des hommes relevant de groupes échangistes différents afin de construire des liens stables de solidarité et de paix que d'un partage de femmes reproductives entre des hommes. Pour moi, la valence différentielle des sexes, qui se traduit plus banalement de nos jours par la domination masculine, constitue un opérateur logique tout aussi universel que la prohibition de l'inceste et, comme lui, tout aussi instable dans ses formes et potentiellement révisable. Car ce montage, lui aussi idéologique, conceptuel, est le fruit de la pensée de nos ancêtres sapiens qui ont cherché à comprendre et à donner du sens à ce que leur sens leur permettait d'appréhender et à vouloir s'en saisir par la raison. On me prie donc d'abréger et de terminer ce que je vais faire. Ce qui m'importe à mes yeux, c'est de toujours penser comme première et fédératrice la question, c'est-à-dire celles que se sont posées l'humanité, et non la diversité qui parfois nous aveugle des réponses qui leur ont été apportées par les diverses sociétés et que l'esprit et où l'esprit humain a montré brillamment ses capacités réflexives. Ce qui importe aussi, c'est de voir que toutes les réflexions qui précèdent, et comme celles parfois divergentes que peuvent faire d'autres collègues, découlent d'une question fondamentale et fédérative également, qui a été posée par Claude Lévi-Strauss. Quand il a pointé l'importance de la prohibition de l'inceste, il n'a pas d'un coup débroussaillé le champ entier qui s'ouvrait, ni donné une réponse définitive, mais il a offert la possibilité à d'autres défricheurs de s'y risquer, mais il travaille toujours dans le cadre de la même question.